Bonsoir et merci d'être présente pour cette conférence. Nous accueillons ce soir Pierre Boilet et Camille Lefebvre qui vont revenir, qui sont historiens. Pierre Boilet, vous êtes directeur du Centre d'études des mondes africains. Vous avez piloté le projet ANR Front Afrique de 2007 à 2010 aux côtés de Camille Lefebvre, historienne, spécialiste des frontières du Niger. Et ce soir, vous allez revenir sur une thématique que vous avez abordée pendant tout ce projet d'étude sur les frontières africaines pour cette conférence intitulée « Afrique, permanence et artificialité des frontières ». Et donc, je vous laisse la parole pour un peu plus d'une heure, suivie d'une séance de questions. Merci.
Bien, merci à vous. Je pense que ça marche, apparemment. Bien, alors... Effectivement, donc, on nous a demandé de venir parler un petit peu des frontières ou du travail qu'on fait sur les frontières et d'essayer de montrer un petit peu aussi comment la recherche se fait en général et sur ce cas en particulier. Alors, donc, on va commencer peut-être par là, comme ça vous saurez un tout petit peu ce qu'il en est. Nous avons présenté un projet à l'Agence nationale de la recherche qui s'appelait Front Afrique. Et ce projet, comme vous le voyez vaguement ici, là vous voyez une petite photo qui montre la frontière entre le Mali et l'Algérie. La photo d'avant, d'ailleurs, je vous le montre, c'est pour vous indiquer un petit peu les lieux dans lesquels on travaille. C'est la frontière entre le Nigeria et le Niger. Bon, ça se voit très bien, c'est pointillé par terre. Et ces frontières qui nous intéressaient, donc on fait l'objet de ce projet qui a été accepté donc par l'Agence nationale de la recherche et qui donc a été financé, ce qui nous a permis de monter une équipe pluridisciplinaire qui comprenait donc des anthropologues, des historiens, etc. Et donc de travailler sur ces frontières. Alors quelle était l'idée que nous avons présentée ? Elle était marquée, cette idée, par le discours que l'on entend en permanence sur les frontières africaines. Ce discours, on le présente, vous avez ici donc le lien qui vous permet d'aller sur le site si vous en avez envie. Ce discours, on le présente aussi dans ce site. Il était parti, il est parti très vite, en fait, y compris, Camille en parlera certainement tout à l'heure, à partir de l'époque coloniale elle-même. Sur un certain nombre de réalités. C'est un discours que vous entendez en permanence, ce fameux discours des frontières artificielles en Afrique, imposées par le colonisateur, faites à la conférence de Berlin, et qui sont donc à l'origine de beaucoup de choses. Alors, en gros, il y avait un certain nombre d'axes, si vous voulez, de ce parti pris. Donc, le fait que les frontières étaient artificielles, produits d'importation, qui étaient imposés sans qu'il y ait de réflexion, sans qu'il y ait de logique humaine, etc. Et au mépris donc des populations qui vivaient sur place, qui avaient été coupées donc en plusieurs morceaux. La deuxième grande image qu'on peut avoir de ces frontières africaines, c'est l'idée que la gestion même du pouvoir colonial a contribué à quelque chose comme surcouper, si vous voulez, donc les populations existantes, et que donc les conséquences de ce découpage colonial auraient été donc l'origine d'un certain nombre d'effets négatifs et notamment de l'absence de développement, avec des migrations, des déséquilibres, des luttes internes, externes, des conflits, etc., etc. Bon. Alors, c'est un peu embêtant à partir de là, parce qu'on avait commencé à réfléchir un tout petit peu, puis on n'était pas les seuls, ni tout à fait les premiers, bien sûr. Et notamment, vous avez peut-être déjà entendu parler du livre de Michel Fouché, « Front et frontières », qui avait fait un excellent travail, très vaste, très encyclopédique, sur l'ensemble des frontières du monde, et pas simplement de l'Afrique, et qui montrait déjà que, bon, il fallait un tout petit peu réfléchir, parce que si on étudiait vraiment les frontières, on se rendait compte qu'il y avait, comme il dit, des pertinences sous-jacentes, d'ailleurs des choses qui pouvaient ressortir du passé. Bon. Alors, on a essayé de voir un tout petit peu, mais on s'est rendu vite compte que lorsqu'on travaillait sur les frontières et qu'on remettait en cause cette doxa, comme dit Michel Fouché, ce dogme absolu des frontières et leur aspect pernicieux, extérieur, etc., on était très très vite taxés d'être des coloniaux plus ou moins gentils, mais en tout cas donc avec l'idée qu'on voulait réhabiliter donc le découpage colonial, etc. Évidemment, c'était pas du tout notre idée, mais étant historiens, notamment nous deux, on cherchait à comprendre effectivement comment ces frontières avaient pu se mettre en place. Donc, il fallait essayer de renouveler ce questionnement, un petit peu comme l'avaient fait Michel Fouché et d'autres. Et puis, on s'est aperçu que c'était facile. En tout cas, c'était possible de le faire parce qu'il y avait plein de matériaux, qu'il y avait des chercheurs qui étaient disponibles pour cela et qui suivaient ce type d'idées. Et que finalement, s'intéresser aux frontières, c'était aussi s'intéresser aux espaces. Et ces espaces donc étatiques qui sont ceux d'aujourd'hui. Et que c'était aussi, surtout, reporter la vraie question, non pas sur des lignes qui avaient été tracées, et tracées, on va le voir aujourd'hui, peut-être pas si idiotement que ça, mais en tout cas, que l'intérêt, c'était effectivement de s'intéresser à l'État en Afrique et donc à sa façon de gérer le territoire, donc les liens qu'il pouvait y avoir entre le politique et le territoire. Alors pour ça, on a utilisé pas mal de choses. Ça fait 4 ans qu'on travaille, on est loin d'avoir terminé. On va essayer bientôt de publier un ouvrage qui nous pose quelques petits problèmes de mise en place, mais qui va résumer un peu tous ces travaux. Donc, on pouvait disposer des archives, déjà, hein, beaucoup d'archives, des documents militaires, des documents civils, des documents diplomatiques, des documents aussi, et Camille vous en parlera mieux, de ces fameuses missions de délimitation qui ont été sur le terrain à l'époque pour essayer de comprendre où faire passer les frontières. On avait aussi des récits d'explorateurs, des récits de voyages. On avait bien sûr des cartes, des atlas, des revues savantes, des guides, des manuels scolaires, etc. Et puis on avait aussi la possibilité d'aller sur le terrain dans des missions qui ont été relativement nombreuses pour s'adresser aux gens et leur demander ce qu'ils pensaient de la frontière, ce qu'ils savaient de ce qui pouvait avoir existé auparavant, etc., etc. Et on en est arrivé assez vite donc à des postulats de départ, bon, qui peuvent paraître peut-être pour certains, vous m'excuserez, absolument logiques et normales et peut-être naïves, mais peut-être qu'il faut les rappeler quand même. La première chose, c'est que ce dogme critique des frontières africaines parle de l'artificialité des frontières. Or, pour nous, on s'est très vite rendu compte, on avait d'ailleurs déjà cette idée-là avant de commencer, que les frontières étaient toutes artificielles en réalité, et pas simplement celles de l'Afrique, hein, celles de France, celles de l'Europe, toutes les frontières du monde sont artificielles, tout simplement parce que c'est un choix humain, hein, c'est pas la montagne du coin qui a dit, moi, attention, c'est moi la frontière, non, pas du tout, c'est les humains de cet endroit-là qui ont décidé de faire passer la frontière là, parce que ça leur paraissait plus pratique, que ça leur paraissait plus logique, et qu'il y a eu donc des traceurs qui ont choisi entre des tracés. Frontière arbitraire, bon, on en parle beaucoup de ça pour l'Afrique, mais qu'est-ce que ça veut dire une frontière arbitraire, hein? Même chose, on s'est posé la question, on s'est rendu compte que ça ne voulait absolument rien dire non plus. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises frontières en soi. Il y a des frontières qui sont respectées par les deux parties qui la partagent, hein, donc deux États, deux espaces, ou il y a des frontières qui ne sont pas reconnues par ces parties en question, qui donc se disputent un tracé qui pourrait être différent, etc. Bref, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas se baser sur ce genre de schéma, de stéréotypes, de clichés tout faits, et qu'il fallait aller creuser pour essayer de comprendre ce qu'il en était, et creuser de façon la plus historique possible, la plus lointaine possible, et reprendre donc ce terme de Michel Fouché, qui disait que les frontières, c'était du temps inscrit dans l'espace ou des temps inscrits dans des espaces. Alors, autre chose que l'on a mis tout de suite en place aussi, c'est cette idée justement de ces frontières africaines qui posaient des problèmes. Alors, on s'est dit, tiens, conférence de Berlin, comment ils ont découpé, etc. Bon, et là, on s'est rendu compte très rapidement que la conférence de Berlin, on le dit haut et fort depuis des années, mais manifestement, on n'est jamais entendu, mais c'est comme ça. La conférence de Berlin, qui, vous le voyez ici, c'est passé donc de novembre 1884 à février 1885, n'a pas du tout été le lieu du traçage des frontières. Ça, il faut le dire haut et fort, historiquement, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, en fait. À la conférence de Berlin, les gens, effectivement, se sont réunis, donc des diplomates venus de beaucoup de pays européens, mais pas exclusivement. Une conférence qui a été faite à l'initiative de Bismarck, qui voulait un peu affirmer son rôle d'arbitre dans la relation internationale en Europe, et qui, on s'en doute très fortement, voulait aussi détourner un peu la France de l'Alsace-Lorraine vers une expansion outre-mer. En fait, cette conférence, et d'ailleurs, d'une certaine façon, l'image le montre bien, on voit une grande carte de l'Afrique, et surtout ce que l'on voit apparaître sur cette carte de l'Afrique, c'est des fleuves. Or, cette conférence, effectivement, ça a été une conférence autour des fleuves. En réalité, il y avait un certain nombre d'appétits occidentaux, européens, pour le commerce en Afrique. Et donc, il fallait régler les concurrences qui pouvaient exister entre les puissances européennes pour la liberté du commerce. Et donc, on a parlé quasiment que de ça. Donc, la liberté du commerce dans le bassin du Congo, la liberté du commerce dans les fleuves Niger, le fleuve Niger, et puis le fait que, mais vraiment c'est un codicille, c'est le sixième et dernier point de la conférence, il y aurait peut-être des installations, mais alors ces installations, on en parle à la conférence de Berlin que sur les côtes, hein, et on dit qu'en gros, pour schématiser, pour simplifier, il faudra que quand quelqu'un s'installe quelque part, eh bien, l'accord des autres puissances devra être requis, etc., etc. Alors, en pratique, donc, à la conférence de Berlin, on n'a pas fait du tout ce que les gens pensent qu'on a fait, c'est-à-dire mettre les cartes sur la table, d'ailleurs, vous voyez, là, elles sont sur le mur, et mettre des règles dessus et tracer des traits. Hein. On n'a pas fait ça du tout. On a discuté, donc, de la liberté de commercer. Néanmoins, on peut dire qu'effectivement, à partir de ce moment-là, l'idée était quand même dans les têtes de prendre des avantages sur le voisin. Et on a commencé donc à rentrer sur le continent. On a commencé donc à faire des traités avec les chefs locaux. On a commencé donc à essayer de trouver un avantage par rapport à sa propre nation, par rapport à l'autre, etc. Et donc, de fil en aiguille, on a fini par installer des petits postes. On a fini par occuper un peu le territoire. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des zones d'influence qui se mettaient en place. Et à partir de là, Camille vous montrera un exemple très précis entre le Niger et le Nigeria. À partir de là, eh bien, on a commencé petit à petit à installer des lignes très, très schématiques au départ, qui se sont trouvées petit à petit, à force de discussions et d'enquêtes sur le terrain. Hein, c'est-à-dire en fait de ces missions de délimitation qui ont été sur le terrain, qui ont parlé avec les gens, qui ont demandé ou pas les frontières, etc., par tracer des frontières de plus en plus précises et de plus en plus indentées. Donc, c'est à partir de ce moment-là que s'est fait réellement le partage de l'Afrique et que se sont créées réellement, petit à petit, les frontières africaines. Donc, après les années 90, au début du XXe siècle, les choses ont commencé à se mettre en place et à se discuter entre les Européens essentiellement. Ceci dit, donc, quand on a délimité ces frontières, on a été voir sur place, et puis il y aura tout à l'heure une image qui montrera les difficultés d'ailleurs de le faire, parce que c'était des endroits qui étaient parfois très difficiles d'accès. Bon. Et on demandait aux gens donc ce qu'ils avaient en tête, est-ce qu'il y avait une frontière qui passait par là, est-ce qu'ils étaient du côté du califat de ce côté ou pas, etc. etc. Je ne vais pas anticiper sur ce qu'on va dire tout à l'heure, mais les remontées du terrain, les remontées historiques des populations africaines, en réalité, ont été prises en compte. C'est assez étonnant, on se dit, mais pourquoi finalement, puisque l'image qu'on a, c'est au contraire, à la limite, diviser pour régner, faire en sorte que les populations soient écartelées entre plusieurs pôles pour mieux les dominer, etc. Mais en fait, en réalité, c'est pas tellement le but. J'en avais parlé à un administrateur colonial, un ex-administrateur colonial qui est décédé maintenant. Et quand je lui posais ce problème-là, il me dit, mais vous savez, Pierre, en fait, nous, administrateurs, vous imaginez pourquoi on était là-bas. C'était pour administrer, justement. Et un administrateur, lui, ce qui l'intéresse, c'est que ça se passe le mieux possible, qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas de problème avec les populations, et que, donc qu'il y ait suffisamment de paix pour pouvoir administrer et éventuellement, d'ailleurs, exploiter. Bon. Donc, de fait, à quoi cela nous intéressait? De couper des populations pour les énerver, pour faire en sorte qu'elles ne soient pas contentes, etc. On n'allait pas mieux les dominer, on allait au contraire moins bien administrer. Donc ça nous était apparu effectivement comme quelque chose qu'il fallait peut-être avoir en tête. Alors en pratique, malgré tout, il y a une chose qu'on peut dire, c'est que ces frontières sont des frontières évidemment exogènes. Donc elles ont été tracées par des gens qui, même s'ils ont pris l'avis du terrain, ne l'ont pas évidemment toujours respecté et qui ont décidé par eux-mêmes donc, que la frontière passerait là ou pas. Ce qui est sûr aussi, c'est que ces frontières n'étaient pas forcément dans l'esprit de toutes les frontières africaines. D'abord, il y avait des frontières africaines, ça aussi c'était quelque chose qu'il faut quand même dire, mais ces frontières n'étaient pas, loin s'en faut, des frontières lignes dans la plus grande majorité des cas. On avait plutôt affaire à des frontières zones où donc des espaces peu peuplés servaient de confins entre deux pouvoirs que les gens d'ailleurs connaissaient très bien par contre, hein, et savaient très bien donc qu'ils passaient d'un pouvoir, d'une autorité à l'autre. Donc ça, c'est une chose réelle. Et puis, il y a une particularité pour l'Afrique aussi, c'est que tout ça s'est passé très vite. Hein. Les frontières en France, par exemple, ou en Europe, continuent d'ailleurs à se faire et à se défaire sous nos yeux, mais les frontières de la France, par exemple, ont mis des siècles avant d'être plus ou moins déterminées, puis elles peuvent encore changer, on ne sait pas, il y aura peut-être des événements qui vont obliger à changer les frontières. En Afrique, évidemment, tout ça s'est fait extrêmement vite, puisque en gros, à partir de la conférence de Berlin, la ruée vers l'Afrique, le Scramble for Africa a commencé, que petit à petit, donc, on a commencé à se séparer des zones d'influence et tracer des lignes de plus en plus précises. Mais tout ça, finalement, ça s'est globalement joué en 25 ans, hein, un quart de siècle, un peu plus si on va jusqu'au bout des délimitations. Mais à la différence de l'Europe, où le processus s'est allé sur des siècles, le découpage africain a été réalisé extrêmement rapidement. Hein. Donc les pourcentages sont que les 70% des frontières ont été tracées entre 1885 et 1910, donc en 25 ans, et aucun autre ensemble géopolitique, aucun autre continent n'a été découpé aussi rapidement, même au Proche et au Moyen-Orient, où la plupart des frontières ont été créées entre 1910 et 1930, mais avec une longueur moindre et sur des bases qui étaient aussi celles de puissance impériale précédente, comme les Ottomans, etc. Alors, il faut mais avoir ça en tête, évidemment, ce qui veut dire que dans cette idée d'étude des frontières, il faut comprendre à la fois leur nature, la façon dont elles ont été tracées et surtout les effets qu'elles ont engendrés. Et ça a été aussi un des buts de notre travail, c'est-à-dire de voir un petit peu comment les populations les ont acceptées ou non, hein, et s'en sont servies aussi ou non. Hein. Curieusement, on s'est rendu compte que dans beaucoup de cas, dans l'extrême majorité des cas d'ailleurs, les frontières sont intégrées hein, déjà par les populations qui très tôt d'ailleurs, pendant la colonisation, s'en sont servies pour faire du commerce, pour faire de la contrebande, pour se réfugier hein, d'une administration à l'autre afin de ne pas payer d'impôts par exemple ou éviter la conscription. Et que ces frontières, donc, ont été très vite intégrées. Mais, effectivement, c'est aussi un travail qu'il faut faire et c'est un travail qu'il faut comprendre en termes de migration, en termes d'économie, en termes de politique aussi. Donc, il faut intégrer dans les études des frontières un peu tout cet ensemble. Dernière chose, parce que je ne sais pas, je ne sais pas du tout quel est le temps, je ne sais pas où j'en suis, mais... il y a une chose qui est un peu contradictoire par rapport à ce qu'on dit, c'est que les frontières africaines, depuis les indépendances, qui ne se sont pas toutes passées en 60, comme on l'a beaucoup trop dit ces derniers temps, ces frontières, en fait, ont été extrêmement stables. Je vous montre un petit tableau qui a été fait, qui n'est pas très lisible, mais qui n'a d'intérêt que pour les calculs qu'il permet de faire, où j'avais commencé le travail, on l'a continué ensemble, et on essaie de le mettre au goût du jour en permanence. Vous voyez, ça se termine par les problèmes de l'Azawad actuellement au Mali en 2012. Nous avons essayé depuis le début des indépendances et depuis même éventuellement un petit peu avant de voir les conflits tels qu'ils se sont présentés en Afrique. Bon, il y en a eu peut-être plus d'autres, il y en a eu d'autres de plus, mais ce sont les conflits les plus importants. Ça en fait quand même 37 depuis les années 60. Et donc ici sont répertoriés les pays impliqués. Donc parfois c'est un seul pays, parfois c'est plusieurs. Et les années de début, et les années de fin et les durées des conflits et le type. Donc vous voyez sur, sur ce tableau qu'il y a ici, je ne sais pas si c'est très net, donc des conflits qui sont internes, qui sont frontaliers, d'autres qui sont externes, etc. Alors, quand on dit qu'un conflit est externe, c'est par exemple celui-là, Sahara occidental, Maroc, etc. Ça implique un certain nombre d'États, mais encore plus celui de ce qu'on a appelé la guerre mondiale africaine, c'est-à-dire la guerre qui s'est passée entre la République démocratique du Zaïre, l'Ouganda, etc., qui a impliqué beaucoup de monde. On s'aperçoit que dans tout, si l'on fait donc l'ensemble de cette liste, de cette typologie, on arrive à la fin à une conclusion ici qui est assez claire, comme vous le voyez. Des conflits frontaliers purs, c'est-à-dire des conflits qui ont été des discussions autour du tracé de la frontière, eh bien, il y en a extrêmement peu finalement par rapport à l'ensemble des conflits. En gros, ça en fait 25%, à peine un quart, 24%, à peine un quart donc des conflits ayant existé sur le continent africain depuis les indépendances. Des conflits externes, peu nombreux, c'est-à-dire des conflits qui effectivement dépassent complètement le cadre des frontières. Et le reste, la très grosse majorité, c'est comme le cas que j'évoquais tout à l'heure de l'Azawad et du Mali actuel, des conflits internes, c'est-à-dire en fait des conflits qui opposent des populations à leur état central, par exemple, qui peuvent être sécessionnistes, qui peuvent être séparatistes, qui peuvent être simplement aussi des conflits pour avoir une meilleure place dans l'État quand on est marginalisé et que on n'a pas de représentation ou insuffisamment de représentation ou encore qu'on n'est pas pris en compte suffisamment économiquement. Bref, en réalité, ces conflits donc sont des conflits qui ne remettent pas en cause les frontières. Et ça nous a un peu étonnés, mais ça a été une des bases aussi de la réflexion, parce que quand ces conflits ont effectivement dans 25% des cas, dans un quart des cas, remis en cause les frontières, prenons par exemple le cas de la Libye et du Tchad, bande d'Aouzou, ou alors le cas du Mali et de la Haute-Volta puis du Burkina Faso, avec la contestation autour de la bande d'Aguécher, eh bien, on s'est rendu compte que c'était d'abord peu d'espace. Parfois, la bande de Ouzou, c'était quand même un territoire assez important, mais bon, c'était quand même par rapport à chacun des États qui la réclamait peu d'espace. Et surtout que c'était, la plupart du temps, des conflits qui étaient issus d'incertitudes coloniales. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque coloniale, on avait mal délimité ces frontières et que par conséquent, il y avait des prétextes pour pouvoir avoir une demande particulière. Ces conflits se sont quasiment tous terminés par des intermédiations et notamment par l'intermédiation de la Cour internationale de justice de La Haye qui a dépêché des experts sur place, qui a fait des enquêtes, qui a pris des gens qui ont été regardés dans les archives et qui ont statué ensuite sur les problèmes qui pouvaient exister. Par exemple, la bande d'Aouzou posait un problème entre deux accords différents qui avaient été faits, l'un qui plaçait la frontière beaucoup plus au nord, l'autre beaucoup plus au sud, et évidemment la Libye réclamait la frontière plus au sud pour agrandir son territoire, tandis que le Tchad réclamait une frontière plus au nord pour avoir lui-même plus de territoire. Or, l'antériorité des accords coloniaux était en faveur du Tchad. La Cour internationale de justice l'a statué là-dessus, et le conflit s'est terminé. Donc, dans ces conflits frontaliers en plus, on s'aperçoit qu'il y a très peu de changements de frontières. Alors vous allez me dire, pourtant, on assiste à des choses récemment. Là, il y a déjà eu l'Érythrée il y a quelque temps. Puis là, il y a brutalement le Sud-Soudan. Et puis maintenant, il y a les gens du Nord Mali qui réclament leur indépendance. Bon, finalement, le principe de l'intangibilité des frontières, quand même, est très largement écorné. Moi, j'aurais tendance à dire non. L'Érythrée a créé une nouvelle frontière, mais les frontières existantes n'ont pas été changées. Le Sud-Soudan a créé une nouvelle frontière à l'intérieur du Soudan, mais on n'a jamais touché donc aux frontières extérieures du Soudan. Et dans le cas actuel de la Zawad, allez vous balader sur les sites des rebelles Touareg ou du MNLA, et vous verrez qu'il y a une belle carte qui montre le Nord Mali exactement dans ses frontières coloniales et que l'on réclame donc un territoire qui est situé dans ses frontières reconnues internationalement et y compris d'ailleurs dans des frontières qui sont des frontières internes, des frontières administratives de régions qui ont aussi été la plupart du temps déterminées à l'époque coloniale. Donc très peu de remise en cause des frontières et finalement un continent qui a été ces dernières décennies un des plus stables à ce niveau-là dans le monde, plus stable à la limite que l'Europe elle-même. Voilà donc quelles ont été un peu les bases de notre travail. Ces bases donc nous ont permis de bien avancer et d'aller sur le terrain pour faire les études les plus approfondies possibles. Et je vais céder la parole donc à Camille Lefebvre qui va nous montrer donc quelques exemples de ces réalités. Et on pourra revenir après, si vous voulez, dans les questions sur d'autres exemples potentiels. Merci.
Bonjour. Donc je vais commencer par des questions d'ordre général et ensuite je vais effectivement vous parler de ma recherche plus précisément qui était mon travail de thèse où j'ai travaillé sur les frontières du Niger. Donc la première chose qui me paraissait importante à soulever ici, c'est que cette idée du partage de l'Afrique, comme M. Boilet vous en a parlé, est d'abord une idée coloniale qui a été créée pendant la colonisation. En effet, la création d'un discours ou d'une geste du partage est créée dès le milieu des années 1880, donc avant même que ce supposé partage ait lieu, et alors que la plupart des pays européens ne sont pas encore en position sur le continent africain. Donc en réalité, les puissances européennes créent l'idée qu'elles vont se partager le continent africain avant même que ce partage ait réellement eu lieu et avant même que le continent ne soit occupé. Et on voit apparaître dès les années 1888 ou 1898, des ouvrages intitulés « Le partage politique de l'Afrique » ou alors « Le partage de l'Afrique, exploration, colonisation, État et politique ». Et ces différents ouvrages recréent l'idée que l'Europe se serait partagée l'Afrique au cours du XIXe siècle, ce qui est faux, enfin ce qui ne correspond pas à la réalité, puisqu'à ce moment-là, les pays européens sont présents majoritairement sur les côtes et l'intérieur de l'Afrique est pour la plupart des régions très peu encore occupée. Et donc ces ouvrages reconstruisent une toute puissance européenne sur le continent africain et l'idée que le continent aurait été entièrement découpé, alors qu'à ce moment-là, il n'y a pas ni frontières ni occupation du territoire. On voit bien cette création d'un discours sur le partage, notamment aussi à travers des caricatures. C'était la carte d'avant, qui, dès 1885, donc juste à la fin de la conférence de Berlin, va montrer l'Afrique comme un gâteau que les puissances européennes se seraient partagées, alors que sur le terrain, les puissances européennes ne se sont pour l'instant rien partagées. On voit aussi apparaître une série de discours, notamment Lord Salisbury, alors qu'il est Premier ministre britannique, qui, au moment du tracé de la frontière entre les possessions britanniques et françaises dans la région qui est aujourd'hui la frontière du Niger et du Nigeria, qui va construire un type de discours similaire. Il va dire notamment « Nous nous sommes engagés dans ce qu'un satiriste pourrait juger comme la plus inutile des tâches, celle de dessiner des lignes sur des cartes, là où aucun être humain n'a jamais mis des pieds. Nous nous sommes répartis des montagnes, des rivières et des lacs. La seule difficulté que nous avons rencontrée, c'est que nous ne savions pas où étaient ces montagnes, ces lacs et ces rivières. Mais quelle que soit l'incongruité superficielle de ce partage de l'inconnu, il a le mérite pratique d'éviter toute cause possible de querelle. » Donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce discours, créé
par les Européens ne correspond pas à la réalité. C'est-à-dire que les frontières ne sont pas encore tracées, les régions dont il est question ne sont pas encore occupées, et on va construire, avant même d'avoir occupé et d'avoir découpé, l'idée que l'Afrique a été partagée par un gâteau, de manière à affirmer et à construire l'image d'une Afrique qui aurait été partagée par les Européens, dont la toute-puissance serait de ce fait manifeste. Ce qui est important de voir aussi, c'est que la production de ces caricatures ou des cartes qui figurent le continent africain comme un vaste espace conquis, c'est notamment la carte suivante, contribue à créer une Afrique qui serait vide de pouvoir, qui serait conquise alors qu'elle ne l'est pas encore. Ces représentations contribuent à désocialiser et à dépolitiser le continent africain et favorisent l'idée que ce continent était, avant la colonisation européenne, un espace socialement et politiquement vide, ce qui, évidemment, n'est pas vrai. Donc on a encore aujourd'hui, c'est la représentation suivante, l'habitude de montrer cette idée du partage de l'Afrique en opposant deux cartes. Une carte de l'Afrique dans les années 1870 en général, ou même 1880, et une carte de l'Afrique en 1910. En général, ces cartes montrent une Afrique en 1870 ou 1880 qui est vide, comme s'il n'y avait rien, pas de pouvoir. Et à l'inverse, une carte d'une Afrique entièrement découpée. Donc les Européens auraient été les seuls à réaliser ce partage de l'Afrique. La réalité, c'est qu'en fait, on n'a pas de carte qui représente l'état des pouvoirs et des états qui existaient en Afrique dans les années 1870 ou 1880. Donc c'est aussi lié à un manque. Mais il faut faire très attention à ce type de discours qui ont tendance à contribuer à reconstruire une toute-puissance européenne et une conquête du continent qui se serait passée aussi facilement que tracer des traits sur une carte. Pour moi, l'expression même de partage de l'Afrique est une expression qui serait mieux d'éviter parce qu'elle ne correspond pas à la réalité d'une conquête qui a été difficile sur le terrain et qui ne s'est pas fait sans une opposition très forte des populations africaines. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Je vais essayer de vous montrer, à partir de l'exemple notamment de la frontière actuelle du Niger et du Nigeria, en reconstruisant le processus selon lequel elle a été formée, je vais essayer de vous montrer comment, en réalité, s'est passé le tracé de ces frontières coloniales. Et l'étude d'un tracé, mais je l'ai fait pour une série de tracés et d'autres l'ont fait avec nous, montre en réalité un processus beaucoup plus complexe et dans lequel les populations africaines ont joué un rôle beaucoup plus important que ce que l'on a l'habitude de dire. Donc, dans les années qui suivent la conférence de Berlin, l'idée d'une colonisation effective du continent, comme vous l'avez dit, n'est pas encore absolument admise. C'est-à-dire que si chaque puissance européenne commence à avoir l'idée de s'impliquer sur le continent, d'avoir une sphère d'influence sur le continent, l'idée d'occuper physiquement le territoire n'est pas, dès le départ, une idée qui est admise au niveau européen. Donc ce qui va se passer, c'est que dans certains cas, on va tracer des frontières avant que le territoire ne soit occupé. Et donc on va effectivement tracer des frontières sur des cartes alors qu'aucun Européen ne s'est rendu depuis plusieurs années dans la région. Donc dans le cas de la frontière qui nous intéresse, donc, qui est la frontière actuelle du Niger et du Nigeria, et qui est à ce moment-là l'objet d'une concurrence entre la France et la Grande-Bretagne, le territoire n'est pas occupé, ni les Français ni les Britanniques ne sont présents dans cette région, et aucun Français ne s'est jamais rendu dans la région d'ailleurs. Et si plusieurs Allemands ont visité la région au nom de la couronne britannique, aucun Britannique n'a visité la région. Donc ce qui est le débat entre Français et Britanniques va se porter autour de la question de l'expansion de leur zone d'influence. La question pour chacun est de savoir jusqu'où ils iront. Les Britanniques sont présents sur le fleuve Niger, tandis que les Français sont présents en Algérie, et l'idée est qu'ils ont peur qu'à terme, leur zone d'influence soit mise en cause par l'autre puissance. Donc c'est donc afin de garantir une colonisation possible, puisque la colonisation n'est pas encore réelle, et surtout afin de garantir notamment la sécurité du territoire algérien pour la France, et pour les Britanniques, leur influence sur ce qu'ils appellent l'interland nigérien, que vont être entamées des négociations en août 1890. Donc, dans ces négociations, et c'est le cas pour la plupart des frontières africaines, cette frontière n'est qu'un des sujets d'une beaucoup plus vaste discussion qui porte sur une série de sujets diplomatiques, certains européens, d'autres mondiaux, d'autres africains. Et la question de cette frontière africaine n'est qu'un des éléments d'une discussion plus large. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que dans cette discussion, les données cartographiques vont jouer un rôle très important. Comme c'est le cas à l'époque dans toutes les négociations de frontières, et comme c'est le cas la plupart du temps, c'est d'abord autour de cartes qu'on va négocier les frontières, notamment autour de cartes topographiques et administratives. Comme aucune de ces deux puissances n'a été dans la région récemment, il n'y a pas de carte récente de la région, il n'y a pas non plus de carte précise de cette région. Mais dans le même temps, il y a eu tout un mouvement certains États européens ont commencé à construire des cartes dans lesquelles ils mettaient en valeur les territoires qu'ils aimeraient conquérir à terme. Donc c'est... Donc, les Britanniques ont produit ce type de carte, mais aussi les Espagnols et les Allemands. Et par contre, la France n'en a pas encore produit à ce moment-là. Donc, à la veille de la discussion, un éditeur de cartes britannique, Stanford, va produire une carte qui s'intitule « Carte des possessions britanniques en Afrique de l'Ouest », comme vous pouvez le voir, et qui figure en rose les territoires qui sont théoriquement dépendants des Britanniques dans la région. Au moment de la discussion entre Britanniques et Français, comme les Français n'ont pas amené de carte, les Britanniques vont produire cette carte et vont dire « Regardez ce territoire, c'est là où nous sommes présents, c'est là où la Royal Niger Company a ses centres. » Évidemment, la réalité n'est pas celle qu'ils ont représentée. Ils ont représenté en réalité en rose le territoire du sultanat de Sokoto, et ils ont fait remonter le territoire du sultanat de Sokoto quasiment jusqu'à l'Algérie actuelle, en disant que ce sultanat était puissant dans toute cette région. Évidemment, les Français ne connaissent pas la région, aucun Français n'y a été, et ils n'ont pas de carte. Donc ils ont assez peu d'arguments pour répondre à ce coup de bluff des Britanniques. Et lorsque les Britanniques leur proposent de mettre la frontière dans la région de Sai, qui est sur le fleuve Niger, ils vont accepter en se disant qu'ils gagnent quand même toute une partie du territoire qui est en rose et que c'est une bonne affaire pour eux. En réalité, ils se sont complètement fait avoir puisque la Royal Niger Company n'a jamais été au-delà de la confluence de la Benoué et donc n'est absolument pas présente dans aucune des régions qui sont représentées en rose. Donc finalement, c'est sur un coup de bluff cartographique que la première version de la frontière va être tracée, une ligne droite. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que le texte va introduire une idée importante. Je vous lis. Le gouvernement de Sa Majesté britannique reconnaît la zone d'influence de la France au sud de ses positions méditerranéennes, jusqu'à une ligne allant de Saï sur le Niger à Baroua sur le lac Tchad, tracée de façon à comprendre dans la zone d'action de la Compagnie du Niger tout ce qui appartient équitablement au Sokoto. Donc cette frontière est à la fois une ligne droite, mais une ligne droite qui est appelée à être modifiée en fonction je vous reprends la citation, de ce qui appartient équitablement au Sokoto. Donc finalement, la frontière est considérée comme devant être modifiée en fonction d'un royaume africain, le sultanat de Sokoto. Et dès le départ, Français et Anglais s'accordent sur l'idée que la frontière sera basée sur les frontières du sultanat de Sokoto. L'idée étant que les Britanniques ont déclaré avoir fait un traité avec Sokoto, bon, ce qui en fait était faux à l'époque, mais les Français ne le savaient pas, et ils ont donc réclamé toute la puissance de Sokoto pour eux-mêmes. Donc, à partir de cette discussion, il est décidé que chacune des deux puissances devra trouver par ses propres moyens quelles sont exactement les frontières de ce sultanat de Sokoto, de manière à ce que la frontière soit renégociée en fonction de l'aire d'extension de ce royaume africain. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que finalement, le principe de définition s'appuie sur la configuration d'une frontière locale africaine. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette délimitation, en ligne droite, elle n'est considérée que comme provisoire et comme destinée à être modifiée à partir des informations qui auront été récoltées sur le terrain africain. Ce qui nous amène à une première remarque, c'est que finalement, quand on voit ce type de processus, on voit un processus qui n'est pas si différent de ce qui existe, notamment pour le cas des frontières européennes, qui ont toujours été construites selon un processus en trois étapes. Évidemment, il y a des allers-retours, hein, mais d'abord une strate de discussion, une strate de négociation au niveau international, qui est suivie, une fois la signature d'un premier accord, par l'envoi de missions ou d'enquêtes sur le terrain afin de modifier le texte en fonction des réalités du terrain. Et une troisième étape, simplement, qui sera la démarcation. Donc ce processus classique des trois étapes de construction des frontières, on voit ici qu'il est respecté. Et finalement, sur la question des méthodes et des procédures qui ont été utilisées pour construire les frontières africaines, on se rend compte, en les étudiant, que la plupart du temps, elles ont suivi des procédures qui étaient les mêmes que celles qu'on appliquait au même moment pour d'autres frontières dans le monde. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que finalement, souvent, l'histoire des frontières africaines s'est arrêtée à cette étape-là. Et on a étudié uniquement la négociation entre les puissances européennes, la négociation diplomatique, et on n'a pas été analysé la période suivante, qui est celle où les différents parties prenantes européennes ont été sur le terrain pour essayer de voir si le texte qu'ils avaient produit fonctionnait sur le terrain. Et c'est lorsqu'on arrive sur le terrain africain, lorsque ces missions arrivent sur le terrain africain, que les populations africaines, et surtout les autorités politiques locales, vont réussir à jouer, voire à modifier les frontières et à les faire évoluer dans leur intérêt. Donc c'est certainement une des choses qui a été importante pour nous dans notre travail, c'est de travailler vraiment sur cette étape suivante, sur l'arrivée des Européens sur le terrain africain et sur la question du tracé des frontières dans le cas sur le terrain africain. Donc ça s'accompagnait d'une nouvelle manière de travailler sur les frontières, qui était celle de combiner l'histoire des relations internationales à une histoire par le bas, au ras du sol, qui observe l'action réelle des Européens et de leurs interlocuteurs africains sur le terrain africain. Donc l'objectif de ce type de recherche était de reconstituer les processus de définition de territoire, d'en retrouver les différents acteurs européens et africains, et d'en déconstruire les logiques, et les enjeux, et donc d'observer à différentes échelles qu'est-ce qui pouvait avoir décidé et motivé le tracé des frontières. La tâche était complexe, forcément, puisqu'on avait plusieurs centres et plusieurs périphéries, à la fois la métropole en Europe, le niveau colonial, avec notamment les intérêts du ministère des colonies, qui n'étaient pas forcément les mêmes que les intérêts du ministère des Affaires étrangères, mais aussi les lobbyistes et à l'inverse, un niveau beaucoup plus local, avec là des commandants de cercle, des autorités politiques africaines et des paysans ou alors des éleveurs qui avaient tous leur mot à dire sur la manière dont la frontière devait être tracée. Donc l'idée, c'est vraiment de reconstituer cette mosaïque des acteurs et de faire varier les échelles pour voir d'où vient l'impulsion de la décision. En général, elle vient de la métropole et du niveau diplomatique, mais aussi qu'est-ce qui va jouer dans la prise de décision? Et là, on se rend compte que c'est très souvent le terrain, les retours du terrain, les retours qui viennent des administrateurs, les retours qui viennent des réactions des populations au tracé des frontières, qui vont contribuer à modifier et à faire évoluer les tracés frontaliers. Dans l'exemple qui nous intéresse ici, donc de la frontière du Niger et du Nigeria, pour définir cette question de l'extension du sultanat de Sokoto, la France va notamment envoyer pendant 10 ans 6 missions de délimitation sur le terrain, environ tous les 2 ans ou tous les 3 ans, des missions qui vont rester plusieurs mois sur le terrain, qui vont faire la frontière dans toute sa longueur et qui vont chercher d'une à observer la géopolitique régionale, c'est-à-dire qui dépend de Sokoto et qui rejette Sokoto, mais aussi plus largement, qui vont chercher à négocier et à signer des traités avec des autorités politiques africaines. Alors évidemment, dans le cadre de cette de ce travail sur le terrain. On reste dans un cadre colonial, toutes ces missions sont armées, elles sont là pour faire des démonstrations de force, elles sont là pour montrer la grandeur de la France, comme elles disent. Donc il ne s'agit pas du tout de missions qui soient scientifiques ou dont le but serait une sorte de négociation amicale avec les autorités politiques africaines, mais elles sont néanmoins dans un rapport de force qui est plutôt du côté des autorités politiques africaines, parce qu'au niveau international, le traité signé par un chef ou un roi africain a une valeur qui se négocie au niveau diplomatique. Donc elles sont obligées de rentrer dans des cadres de négociation avec ces autorités de manière à obtenir des traités. Parce que le rapport de force ne suffit pas, hein. Parfois ils essayent, ils l'ont fait notamment à Agadez, hein. ils se mettent à l'extérieur de la ville, ils commencent à tirer des boulets de canon, mais ils restent quand même dans une situation d'infériorité extrêmement importante. Dans ces missions, le maximum d'Européens présents, c'est 10 Européens. Alors avec eux, ils ont parfois de très importantes troupes, notamment de tirailleurs sénégalais, qui ne sont pas sénégalais évidemment. Mais donc parfois la plus malheureusement connue est la mission Voulez Chanoine, qui là avait autour d'elle un millier d'Africains. Donc certains étaient des tirailleurs sénégalais, d'autres accompagnaient la mission. Mais ce rapport de force, ils ne sont tout de même que 10 Européens et ils ne peuvent pas imposer à la fois à la région et à leurs troupes, ils ne peuvent pas s'imposer uniquement par la force. Donc ils sont obligés de rentrer dans des systèmes de négociation. Donc ils ont parcouru la région, interrogé les différentes autorités politiques, qui pour certaines avaient tout intérêt à gagner leur indépendance en disant qu'elles n'avaient jamais eu de lien avec Sokoto, et à signer des traités avec ce nouvel allié qui avait l'air puissant et qui ne demandait à ce moment-là rien en échange. C'est aussi une des vraies écueils de cette négociation, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas ce qu'ils cherchent à obtenir, ils disent qu'ils signent un traité de bonne amitié, c'est ce qui est écrit dans le traité, et si les puissances africaines ne sont pas dupes, elles voient simplement les choses à travers leur propre regard, et comme on ne leur demande ni esclaves ni part de la récolte, elles ont l'impression qu'il y a tout intérêt à signer cet accord. Donc finalement, c'est autour de l'identification de la puissance de Sokoto que va se jouer le tracé de cette frontière, qui va durer finalement jusqu'en 1910, avec, à l'issue de la première période de mission, une dernière mission qui, là, est une mission de délimitation, où Français et Britanniques vont aller sur le terrain, village par village, pour marquer et poser des bornes. Et là encore, à ce moment-là, les autorités politiques vont chercher à modifier le tracé. On a dans les archives des traces de chefs qui disent « Moi, cette région, elle m'a toujours appartenu, votre frontière, elle est mal placée. » Et là, la négociation est bloquée. On attend le retour de Paris pour savoir si on peut modifier la frontière pour rendre à ce chef le territoire qu'il revendique. Donc, jusque dans les années 1910, on voit encore des négociations avec les autorités politiques africaines et une part importante de ces autorités politiques dans la négociation de la frontière. Donc, si l'objectif de ces missions est de servir les intérêts français, elles ont néanmoins, par leurs actions, reconnu les autorités politiques africaines et cherché la définition d'une frontière coloniale dans une réalité historique et politique africaine. Et lors des négociations, ensuite, au retour en Europe, il a été tenu compte de ces retours sur le terrain et la frontière a été très très largement modifiée en fonction de ce qui avait été observé sur le terrain. Notamment, l'aire d'extension de Sokoto qui avait été un coup de bluff britannique a été largement réduite puisque certaines régions, notamment comme Zinder ou Maradi, ont indiqué qu'elles ne souhaitaient pas être rattachées à Sokoto. Donc, on voit comment finalement cette frontière actuelle est plus le reflet d'une frontière africaine du XIXe siècle, c'est-à-dire celle de l'extension du sultanat de Sokoto et des zones de résistance au sultanat de Sokoto et au djihad de Sokoto. Et finalement, comment des formes de négociation importantes ont servi à construire cette frontière. Alors là, on est évidemment au niveau d'une frontière inter-impériale, c'est-à-dire entre deux empires, mais on a aussi des cas différents de frontières intra-impériales, c'est-à-dire les frontières qui sont à l'intérieur d'un même empire. C'est le cas notamment à l'intérieur de l'Empire français, où il y a beaucoup de frontières, qui sont des frontières aujourd'hui d'État, qui étaient au moment de la colonisation des frontières à l'intérieur d'un même empire colonial. C'est le cas notamment de la frontière entre le Mali et le Niger aujourd'hui, ou entre le Niger et l'Algérie d'aujourd'hui. Il faut, pour comprendre les frontières africaines d'aujourd'hui, il faut vraiment avoir en tête cette différence importante des frontières interimpériales et intra-impériales. Parce que les colonisateurs vont accorder beaucoup moins d'importance aux frontières intra-impériales qu'aux frontières interimpériales. Les frontières interimpériales, elles se posent au niveau diplomatique, au niveau international. Donc elles vont donner lieu, comme on l'a vu, à énormément de missions, à énormément de discussions, à une intense production de recherches, d'analyses destinées à savoir où les placer. Et finalement, les frontières intra-impériales, dans beaucoup de cas, elles ne sont pas tracées, ou alors on ne les trace que quand elles posent problème. Elles ne sont quasiment jamais démarquées sur le terrain, on ne pose jamais, quasiment jamais de bornes. Et on va, dans beaucoup de cas, laisser ces frontières un peu dans le flou. Et c'est notamment une des causes des problèmes actuels, c'est-à-dire beaucoup de ces frontières ont été uniquement l'objet d'accords très locaux entre un commandant de cercle et un autre commandant de cercle, qui donnent un accord qui n'a pas, au niveau du droit international, une valeur supérieure à un autre accord avec un autre commandant de cercle qui aura pu arriver après. Et donc, on a des vraies questions de droit pour définir comment doivent être tracées ces frontières. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de ces frontières sont en cours de renégociation entre les États. Ce qui est intéressant pour ces frontières intra-impériales, c'est que comme l'enjeu est moindre, comme les questions de stratégie et de diplomatie au niveau international sont beaucoup moins importantes, la part que les populations africaines au niveau local vont pouvoir jouer dans ces tracés est d'autant plus importante. Quand on est dans le cadre d'un administrateur qui négocie avec un autre administrateur, comme M. Wallet vous l'a dit, l'enjeu il est d'abord de faciliter l'administration et très pragmatiquement de ne pas déclencher de révolte. Donc ça va être le cas notamment pour la frontière du Niger et du Mali, du Niger et de l'Algérie ou du Niger et du Tchad. On va avoir d'abord des accords qui sont beaucoup plus tardifs, c'est-à-dire notamment la frontière entre le Niger et le Tchad, elle ne commence à être tracée qu'après les années 1910, donc au moment où soi-disant toutes les frontières africaines ont déjà été tracées. Et finalement, ces frontières intra-impériales, souvent, elles se négocient au niveau local entre commandants de cercle. Et donc là, ce sont des gens qui ont l'habitude du terrain local et qui vont aller faire des enquêtes auprès des villages pour savoir comment ils ont l'habitude d'être, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont l'habitude d'être plutôt du côté de tel chef ou du côté de tel autre. Et souvent, là aussi, on va reprendre des frontières existantes. C'est notamment, je vais finir par cet exemple, le cas de la frontière du Niger et de l'Algérie, qui a l'air d'être un paradigme de la frontière artificielle coloniale, puisque c'est une frontière ligne droite. Donc c'est en général ce type de frontière qu'on utilise pour dire que les frontières africaines sont mauvaises. Mais en réalité, pourquoi c'est une frontière ligne droite? La plupart des frontières ligne droite dans le monde sont des frontières dans des zones quasiment exclusivement désertiques. Donc dans une région désertique, pour tracer une frontière, on prend des points et après on trace une ligne. Ça n'est pas exclusif au cas africain. Et cette région-là est vraiment une région sur la bande frontière qui est complètement désertique, où les gens n'habitent pas. Il y a uniquement quelques points d'eau où les gens se ravitaillent, mais les gens n'habitent pas autour de ces points d'eau. Et donc, il n'est pas absurde que cette frontière soit une ligne droite. Mais finalement, comment elle a été tracée? Pourquoi elle est à cet endroit-là, puisqu'on pourrait dire ce sont des Touaregs des deux côtés, et pourquoi avoir séparé cette population de Touaregs? Alors, pour vous donner une idée, pour les frontières sahariennes, le principe de définition des tracés, il a été défini par quelqu'un qui est très important pour l'histoire du Sahara de cette époque-là, c'est le commandant Lapérine, qui en 1905, dans un rapport intitulé « Frontières et affectation des tribus », observe que les nomades du Sahara sont groupés, je cite, « en confédérations, basées sur des intérêts réciproques. Celles-ci ont des terrains de parcours et des points d'eau dont l'usage leur est attribué par tradition. Il demande que, suivant cette logique, le gouvernement rattache chacune de ses confédérations à l'Algérie et au Soudan, suivant ses relations commerciales et politiques avec les sédentaires de ces deux pays. Ce que propose ici la Perrine, c'est en réalité, pour le cas de la frontière Niger-Algérie, de reprendre une frontière qui est attestée au moins depuis le début du XIXe siècle, qui est la frontière entre le sultanat de l'Aïr et les différentes populations qui se réclament de l'aménocale du Hoggar. Les gens qui dépendent du sultanat de l'Aïr sont liés plutôt aux populations du Sud, ont l'habitude d'échanger majoritairement sur la route qui va vers Kano et ont notamment leur influence religieuse qui viennent plutôt ou en grande partie de Sokoto. Et inversement, les gens du Hoggar échangent leurs grains, les vêtements qu'ils portent, plutôt avec des gens qui viennent de ce qui est aujourd'hui l'Algérie. Cette frontière, elle avait été négociée, elle est attestée par la tradition orale. Hein. Je me suis rendue notamment au sultanat de Sokoto, où encore aujourd'hui, j'ai pu faire des entretiens avec les gens du sultanat, qui arrivaient à me dire, dans le même temps, cette frontière, elle est absurde, elle est artificielle, elle a été tracée n'importe comment. Mais quand je parlais de l'histoire du 19e siècle et quand je leur demandais exactement quels étaient les points qui signifiaient l'entrée sur le sultanat de l'Aïr, dans le sultanat de l'Aïr au 19e siècle, quel était l'endroit où on payait la douane, ils me citaient le puits d'Inazawa et la région d'Assiou, qui sont encore aujourd'hui les zones dans lesquelles la frontière a été implantée au début du 20e siècle. Donc on voit finalement que cette frontière, là aussi, reprend une configuration locale qui datait du XIXe siècle, et les colonisateurs ont repris cette configuration. Ce qui est important, c'est de se dire que les colonisateurs n'ont jamais fait publicité de cela. C'est-à-dire que ça n'apparaît jamais, à part par des mentions brèves et qui n'indiquent jamais « nous allons reprendre le territoire du pouvoir politique de Sokoto ». Ils vont dire « nous reprenons ce qui appartient équitablement à Sokoto ». Même plus largement, il n'est jamais fait mention dans aucune archive ou dans aucune publicité liée aux frontières à l'idée qu'ils ont repris des configurations politiques existantes, ni même à l'idée qu'il y avait des configurations politiques qui préexistaient à la colonisation. Donc c'est peut-être une des choses qui peut nous aider à comprendre pourquoi aujourd'hui on a une telle amnésie sur cette question, y compris en Afrique, où finalement ce discours a été complètement réintégré, et comment ce discours, aujourd'hui, qui nie toute réalité politique africaine avant la colonisation, est encore aujourd'hui un des schémas qui nourrit nos représentations collectives sur l'Afrique. Voilà. Merci.
Bien, donc on va bientôt vous donner la parole, mais juste quelques mots pour conclure. Bon, d'abord, vous nous excusez, les cartes sont un peu déformées par la projection, mais donc nous avons, Camille Lefebvre vous a parlé de cette frontière du Niger. Je pourrais autant vous en parler sur la frontière entre l'Algérie et le Mali, qui apparaît aussi comme le paradigme aussi complet, l'exemple type de la frontière droite, etc. Mais on a exactement les mêmes choses, c'est un petit peu long à raconter, mais l'idée est exactement la même. Il y a eu des enquêtes de terrain, il y a eu des partages entre toujours d'ailleurs la Confédération, le pôle politique des Touaregs du Hoggar et ceux des Ioulimindon et ceux des Kaladar qui sont actuellement en révolte. Donc on retrouve le même type de logique. La frontière dont vous a parlé Camille Lefebvre, qui était au départ une ligne droite, vous voyez, maintenant est extrêmement indentée justement puisque le califat de Sokoto qui se trouvait donc dans cette région a été, comme elle l'a dit, donc pris en compte dans le tracé des frontières. Alors évidemment, ce qu'il faut dire aussi pour finir, c'est que si ce segment de frontière a une logique, si celui-ci en a une, si celui-ci en a une aussi, curieusement, malgré cette espèce d'angle droit un peu curieux, jusqu'en 1942, la frontière du Mali, elle passait, du Soudan français à l'époque, elle passait comme ça. Hein, et toute cette zone, ici, n'appartenait pas à la Mauritanie. Et par souci d'hétérogénéité, d'homogénéité ethnique, comme l'ont dit les administrateurs, administrateur à l'époque, par souci aussi de rassembler des gens qui avaient pu poser problème lors d'un conflit interne autour du hamalisme. Il y a eu rectification de la frontière ici en 1942 pour aboutir à cet angle droit. Mais encore une fois, ce n'est pas pour embêter les gens, c'est au contraire pour essayer de les rassembler et avoir le plus de paix. Bon. Alors, cette frontière a une logique, celle-là en a une. On peut continuer à étudier chacun des morceaux de frontière. On s'aperçoit que dans la plupart des cas, ces morceaux, ces segments de frontière ont des logiques. Mais ce qui n'est pas forcément logique du tout, en revanche, c'est de mettre ce segment à parier avec celui-ci, puis avec celui-ci, avec celui-ci, et puis de constituer un territoire qu'on appelle le Niger, ou le Soudan français, ou le Mali, etc. Et donc, ce qui nous apparaît le plus évident, c'est que le problème n'est pas tant les frontières, qu'on peut historiquement, dont on peut comprendre l'origine, et qui remontent souvent d'une vieille histoire africaine, mais plutôt la création, effectivement, d'espaces territoriaux, difficiles à maîtriser, difficiles donc à contrôlés et qui font les États actuels d'Afrique. Et c'est pour ça aussi que nous disons qu'il est très important évidemment d'étudier ces frontières pour mieux comprendre quels sont les problèmes de contrôle de l'État et donc pour mieux comprendre aussi les difficultés de l'État en Afrique qui nous paraît être le centre des études qui sont à mener et qui doivent apporter des solutions effectivement à la compréhension des problèmes.
Juste une petite chose, ce qui paraît important de comprendre aussi, c'est que au moment où les colonisateurs tracent des frontières, ils n'ont aucune idée, et même si on leur disait, si on retournait dans les années 1890 et qu'on leur disait « vous êtes en train de tracer les frontières d'un futur pays », ça leur paraîtrait complètement absurde. Il faut se replacer dans la logique qui est la leur à l'époque. Eux, ils créent des unités administratives de taille standard, de manière à pouvoir occuper et administrer des territoires. Donc il ne faut pas projeter sur les colonisateurs des idées qu'ils n'avaient pas à ce moment-là. Ils n'ont aucune intention de construire des pays qui seraient viables à terme pour devenir des pays indépendants. Ça n'a aucun sens de leur reprocher ce type de logique-là.
Bien, on aurait encore, vous l'imaginez, énormément de choses à vous dire, mais on peut peut-être encore répondre à un certain nombre de questions et préciser éventuellement sur certains tracés ou d'autres questions qui peuvent se poser.
Merci beaucoup pour cette intervention très riche. Je ne sais pas si on m'entend très bien là. Si vous avez dès à présent des questions, je vous passerai volontiers ce micro. En fait, nous enregistrons, c'est pour ça qu'on vous propose de sonoriser entre guillemets les questions. Et donc là, je vois s'il y a une question. Moi, j'en ai une, j'en profite juste, on peut en prendre plusieurs à la fois. Dans votre équipe du projet Fonds d'Afrique, on a plusieurs historiens qui travaillent au Togo, il me semble, au Burkina. Comment, dans l'université africaine, enfin les universités pardon, de ces pays, a été accueilli ce projet Fonds d'Afrique et les conclusions auxquelles vous avez abouti? Et je passe la parole à madame.
Bonjour. Oui, je voulais simplement vous interroger au sujet de la situation de la Gambie au Sénégal et justement de cette logique, s'il y en a une. Voilà.
Je voudrais poser une question à propos de la situation au Mali actuelle. D'après, je pense en tout cas, les Maliens qui sont passés à la télé, qu'on a interviewés, ils sont très choqués qu'on divise leur pays, etc. Apparemment, ils tiennent à leur pays, à l'intégrité de leur pays. Alors effectivement, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il en est du rapport justement des populations, des peuples par rapport aux frontières, donc dites artificielles, mais que vous avez dites pas si artificielles que ça. Enfin, apparemment, ils ont l'air d'y tenir. Ils ont l'air d'y tenir.
On commence à répondre ? Je vais faire des réponses très rapides et puis, à mon avis, vous aurez plus de choses à dire que nous. Sur la question des universités africaines, c'est encore un sujet qui est assez largement tabou en Afrique. Ça ne veut pas forcément dire que tout le monde est contre. Il y a notamment un chercheur de notre groupe, Pierre Claverien, qui a fait déjà, il y a 10 ans, une thèse où il a montré l'historicité des frontières du Burkina Faso. Mais surtout, ce qui me paraît plus pertinent, c'est que finalement, les enjeux ne sont pas les mêmes pour eux et pour nous. Nous, cette question de l'historicité, elle nous intéresse beaucoup. Eux, ce qui les intéresse beaucoup, plus, c'est la question de l'avenir et notamment la question des regroupements territoriaux et les questions de fédéralisme et toutes les organisations qui, à terme, pourraient transcender les frontières et permettre de régler certains problèmes. Donc, ils sont plutôt dans la recherche de solutions et de questionner l'avenir des configurations territoriales, alors que nous, on est beaucoup plus tournés vers le passé. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas aussi des travaux historiques.
Oui, on peut compléter ça par plusieurs choses. On a fait justement avec un de nos collègues qui travaille dans le projet Fontafrique, qui s'appelle Michel Gouayakoué, qui est donc togolais, déjà des conférences sur les frontières. Et non seulement il était bien d'accord sur l'historicité de ces frontières, mais aussi, disait-il, le problème maintenant n'est pas tant que ces frontières soient apparemment artificielles, etc., lorsqu'elles ne sont pas, mais surtout qu'elles sont tellement rentrées dans les esprits des gens qu'on n'arrive plus à les dépasser. Et vous avez des problèmes pour construire votre Europe avec vos frontières auxquelles vous tenez aussi. Mais nous, c'est pareil. Hein, la CEDEAO a du mal, en fait, à devenir une organisation vraiment internationale parce que chacun est crispé sur ses égoïsmes nationaux. Donc, ça aussi en partie une réponse à votre question, puisque, évidemment, les gens au Mali tiennent à leurs frontières et à l'intégrité de leur territoire, comme dans la plupart des États du monde, d'ailleurs. Il faut voir que le Mali existait. Bon, il y a eu des vicissitudes à l'époque coloniale, mais néanmoins, donc c'était déjà un ensemble qui s'appelait le Soudan français, qui a existé depuis bien avant la décolonisation. Ensuite, c'est un pays qui est devenu indépendant, et ça fait quand même déjà depuis 60 hein, qu'il est indépendant. Donc ça fait 50 ans. Bon, que ce pays donc a été aussi intégré par déjà plusieurs générations de gens qui ont habité, qui ont vu le territoire sur leur carte. Une certaine iconisation s'est faite dans les esprits. Et de fait, les gens n'ont pas envie que l'on touche à leur territoire national. Bon. Alors là, actuellement, donc il y a une partition de fait du pays et donc la revendication d'indépendance sur le nord. Bon, on verra ce que ça donne, mais pour le moment, donc effectivement, donc il y a une forte réaction d'un sentiment national dont on peut dire qu'il commence à exister très largement dans la plupart des pays d'Afrique, dans les frontières donc qui ont été tracées. Alors maintenant sur la situation de la Gambie. Donc c'est un peu plus compliqué. Nous avons donc une de nos collègues qui travaille particulièrement, qui fait une thèse d'ailleurs sur les frontières de la Gambie. Là, on a affaire dans quelque chose qui est beaucoup plus artificiel. Tu compléteras, hein, Camille, parce que les accords qui ont été faits entre les Français et les Anglais l'ont été faits sur la base d'une certaine distance, 10 km je crois, à partir du fleuve. Et donc on a entouré le fleuve en quelque sorte d'une frontière. Donc là, on n'est pas tout à fait dans la frontière historique, mais tu peux.
Voilà, alors c'est un peu le contre-exemple. Enfin, il y en a un certain nombre d'autres. Hein. L'idée n'est pas de remplacer l'idée que toutes les frontières sont artificielles par l'idée qu'aucune frontière n'est artificielle et qu'elles sont toutes, qu'elles sont toutes africaines et qu'elles dateraient toutes d'avant la colonisation. Nous, ce qu'on propose, c'est plutôt d'analyser toutes les frontières et à partir d'une analyse globale, de pouvoir déterminer quelle est la part de celles qui sont artificielles et coloniales et la part de celles qui sont africaines. Alors, donc, on a une collègue, Caroline Roussy, qui fait donc sa thèse sur la frontière du Sénégal et de la Gambie et qui a montré qu'on est dans quelque chose de l'ordre du contre-exemple, notamment parce que le premier tracé frontalier, comme celui que je vous ai montré, la frontière ligne droite, qui était dans le texte destiné à être modifié, n'a finalement jamais été modifié, parce que l'ordre la concurrence entre Français et Britanniques n'a plus jamais permis de renégocier sur cette question. Cette région était trop importante pour les Français, les Britanniques voulaient vraiment les ennuyer, et donc ils n'ont jamais renégocié sur cette région. Mais au moment où la frontière a été tracée, elle a été tracée de manière à pouvoir être négociée parce que Français et Britanniques pensaient qu'ils allaient échanger ce territoire. C'est-à-dire les Britanniques pensaient qu'ils allaient échanger la Gambie contre un autre territoire dans une autre région qui les intéresserait plus. Ils ont fait monter les enchères, et les Français finalement ont préféré renoncer parce que ce qu'on leur demandait était trop important. Donc finalement là, la stratégie européenne a dépassé des enjeux locaux africains. Après, dans son travail, elle montre bien au contraire que cette frontière bien qu'elle soit complètement artificielle, est aujourd'hui une frontière qui est largement intégrées par les populations, qui ont à la fois le discours de dire qu'elles sont, que c'est la même chose des deux côtés de la frontière, mais qui, en même temps, dans leurs pratiques, dans leurs revendications quotidiennes, ont vraiment différencié leurs appartenances entre Sénégalais et Gambiens. Voilà. Et sur la question nationale, je suis tout à fait d'accord. Hein. Au Niger, quand j'ai commencé à travailler, les gens me disaient « Ah, tu travailles sur les frontières, mais notre pays, ça n'a aucun sens. On n'a qu'à donner les sans-rails au Mali. » Les Touaregs à l'Algérie ou au Mali, et puis on nous découpe comme ça, nous on s'en fiche. Et aujourd'hui, si j'allais dire à un Nigérien qu'il y a 10 ans on me disait des choses comme ça, il dirait mais c'est faux, parce que le sentiment national a vraiment, à mon avis, profondément progressé dans les 10 dernières années.
J'ajoute que ce n'est pas le seul contre-exemple effectivement de frontières qui ne sont pas issues de remontées anciennes. Jean Schmitz, qui fait partie de notre équipe, est présent dans la salle, donc je vais parler à sa place de façon beaucoup trop schématique, bien sûr, qu'il m'en excuse. Mais si on regarde la frontière qui sépare le Sénégal de la Mauritanie, on a utilisé le fleuve justement pour une fois, voilà une frontière bien naturelle, ça c'est formidable, etc. Mais si on avait utilisé le Nil comme frontière pour l'Égypte, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça aurait pu donner, quoi. C'est un lieu de vie, il y a des gens qui vivent autour, qui cultivent autour, et effectivement plus au nord il y avait des gens qui étaient surtout des morts et plus au sud d'autres gens. Bon. Mais on a utilisé cette frontière un peu comme de façon un peu aberrante, c'est-à-dire qu'on a utilisé un espace de vie pour séparer des gens, et donc là typiquement ça fonctionne d'ailleurs très moyennement, et vous connaissez les massacres qui ont eu de part et d'autre, donc c'est aussi un contre-exemple d'une remontée historique qui n'a pas été bien perçue.
Allô. Oui, je voulais vous poser d'abord une petite remarque en tant que fils d'architecte. La manière dont vous avez expliqué comment en fait il y avait d'abord un tracé qui avait été préalablement fait, puis en fait une espèce de métré pour voir quelle était la distance à faire exacte par rapport au tracé. C'est comme ça que en fait, chaque architecte font leur maison, et c'est marrant parce que ça finit toujours par une construction. Et donc là, c'est vraiment l'exemple typique de la construction de l'État par le bas, et j'ai beaucoup apprécié cet exposé. Alors, trois questions très simples. La première, c'est pour rebondir sur qu'est-ce que pensaient les universitaires africains, c'est qu'est-ce que fait plutôt l'éducation nationale par rapport à nos propres livres scolaires, pour expliquer ces points-là. La deuxième, c'était en fait sur... on a vu beaucoup de cartes, donc logique, vu que c'est par rapport au tracé des frontières. Je voulais savoir ce que vous dites sur les cartes des missionnaires, en fait, qui étaient bien plus abondantes à des dates préalables, et donc sur ces sources-là pour établir ces frontières. Et la troisième question, en fait, c'était le côté vraiment... à quel degré, en fait, le côté essentialisation de la frontière produite à votre corps défendant, peut-être, mais comme le disait M. Boilet tout à l'heure, l'important, c'est plutôt ce qui a le plein et pas ce qui délimite le tour, mais à quel degré vous avez des impacts, en fait, sur les représentations même des frontières avec vos travaux, au même degré que les experts qui étaient partis au début du 19e siècle avaient finalement eu des impacts sur les tracés des frontières. Voilà.
Alors, sur la question des cartes, bon, moi j'adore les cartes, j'ai beaucoup travaillé sur les cartes, donc je vais répondre là-dessus. Sur la question des cartes missionnaires, bon, il n'y a pas de missionnaires dans la région sur laquelle je travaille, donc il n'y a pas de cartes missionnaires. Mais par contre, si on voulait construire une cartographie des pouvoirs africains au 19e siècle, on pourrait s'appuyer sur des choses, et bon, sur les cartes plutôt des explorateurs européens, mais aussi notamment sur des cartes africaines qui ont été réalisées dans la région, notamment souvent dans le cadre de dialogues avec des explorateurs européens. Mais il y avait aussi des pratiques de cartographie africaine sur lesquelles j'ai pu travailler. Et donc, il y a des moyens de travailler sur la question du rapport au territoire, la question du rapport aux frontières avant la colonisation, et potentiellement de construire une cartographie. L'enjeu, il est clairement une question de moyens. C'est un des projets qu'on avait dans l'ANR. Mais si vous voulez construire une cartographie à l'échelle de l'ensemble du continent, quand on il manque les données au niveau local pour la plupart des régions, ce n'était pas réalisable. Donc ce qu'on a pu faire pour l'instant, c'est uniquement des cartographies à des échelles locales, comme Henri Médard qui a travaillé notamment sur le Bouganda et qui est capable de reconstituer une cartographie des différents états de la région à ce moment-là. Mais c'est un projet qui est encore en cours et qui, pour l'instant, n'est pas tout à fait réalisable. La question de l'impact, alors Caroline Roussy aurait pu vous en parler, et moi aussi, ça m'est arrivé. Ce qui est très marrant quand on travaille sur les frontières, c'est que les gens essayent tout le temps de vous instrumentaliser. Donc, aux archives, les gens venaient me voir en me disant « Ah, c'est bien que vous travaillez sur les frontières, vous allez enfin pouvoir rétablir la vérité sur mon village. » Donc, ils m'amenaient les papiers, ils m'amenaient les documents, ils me disaient « Alors voilà, ce qu'il va falloir écrire dans votre thèse, c'est ci, c'est ça, et alors c'est comme ça. » Et nous, voilà, donc moi, ça m'est arrivé aux archives, ça m'est arrivé aussi sur le terrain, hein, et c'est arrivé beaucoup à Caroline Roussy aussi, qui a travaillé sur la frontière sénégalo-gambienne. Voilà, donc ça, c'est déjà comment les gens essaient de nous instrumentaliser. Deuxième chose sur la question de l'impact. Aujourd'hui, le fait que j'ai fait une thèse notamment sur les frontières du Niger, où j'ai construit l'idée qu'il y avait des réalités plus anciennes qui permettaient d'expliquer la configuration du pays, aujourd'hui, c'est repris par des doctorants, notamment, qui travaillent sur d'autres sujets, dans un sens beaucoup plus nationaliste que ce que moi, j'ai pu dire. C'est-à-dire qu'ils reconstruisent l'idée que le territoire nigérien a toujours existé depuis le XVIe siècle, qui n'est pas ce que moi, je lis dans ma thèse. Mais voilà, mais ce type d'impact, oui, il est réel, forcément. Et plus la thèse va se populariser, parce que plus forcément, elle va contribuer, bien que ce n'était pas forcément ce que je voulais faire, à construire l'idée, à construire un nationalisme nigérien autour d'un territoire très ancien.
Moi, je dirais que sur l'éducation nationale, je ne sais pas si c'est l'éducation nationale en Afrique ou en France. En France, en tout cas, bon, globalement, on n'évoque absolument pas ces problèmes de tracé de frontières. On parle de la colonisation, on parle de l'Afrique, mais extrêmement rapidement. Et globalement, on parle quasiment essentiellement donc de l'Afrique en Europe, dans les moments où ça s'est, où il y a eu contact, sauf depuis deux ans où donc on étudie l'Afrique ancienne, l'Afrique des royaumes du Mali, etc. Mais bon, pour le moment, force est d'avouer que ce que l'on fait sur les frontières africaines n'a pas beaucoup d'impact dans l'éducation nationale et dans les stéréotypes que nous avons en France, parce qu'on continue à parler des frontières artificielles, etc. Ce qui est intéressant aussi, Camille a parlé d'un impact africain qui est celui du nationalisme. En revanche, l'impact qu'on peut avoir sur cette fameuse phrase qui revient tout le temps sur ces frontières néfastes, etc., est assez faible aussi. C'est-à-dire qu'en Afrique, comme ça avait été dit tout à l'heure, l'idée de ces frontières imposées par la colonisation, etc., ont été totalement reprises. Hein. Cette idée est aussi bien dans les têtes africaines que françaises, même si parfois ça se transforme comme ça donc, en termes de nationalisme. Je dirais d'ailleurs que c'est pas le seul exemple, parce que comme tout État et toute nation en train de se construire, il y a bien sûr toujours construction d'un roman national, et la France en est parfaitement l'exemple, en ayant récupéré Vercingétorix, Clovis, etc., à qui on aurait, je crois, causé beaucoup d'étonnement en leur disant qu'ils étaient français. Mais de la même façon, donc, par exemple, le Mali, qui n'existait pas du tout en tant qu'État, en tant que nation, etc., et qui commence à se sentir effectivement État et nation, a récupéré l'idée qu'ils étaient héritiers, et maintenant dans la presse malienne, ça revient tout le temps, de l'Empire du Mali, hein, alors qu'il y a une solution de continuité qui a quand même existé pendant des siècles, mais qu'il y a eu donc un héritage. Cet héritage, de fait, il est aussi culturel et il existe, mais il n'existe pas du tout en termes de frontières ou d'espace, puisque quand on regarde l'espace de l'Empire du Mali, c'était beaucoup plus vaste et ça ne correspondait pas du tout au Mali actuel. Mais voilà, donc il y a des récupérations comme ça qui ne sont pas des impacts de nos travaux, mais qui existent aussi en termes de frontières.
Sur ce sujet, j'ai sur Internet, on trouve on n'oppose plus toujours la carte avant 1870 à une carte après 1910. Maintenant, j'ai vu beaucoup de sites qui opposent une Afrique des empires, avec l'Empire du Mali, l'Empire Sonrai, comme s'ils avaient tous existé en même temps, et l'Empire du Kanem-Bornou, des empires qui sont parfois sur des périodes complètement différentes, qu'on oppose aux frontières frontières coloniales. Sachant qu'effectivement, on a un trou de 4 ou 5 siècles pour la plupart de ces empires entre le moment où les frontières ont été tracées et le moment où ces empires ont pu exister. Donc il y a un nouveau discours qui se crée autour de ces questions. Sur la question de l'éducation nationale, là, en ce moment, la question du CAPES et la question de l'agrégation, la question est les sociétés coloniales, bon, Afrique, Asie, Antilles, mais avec une approche qui est vraiment par le bas, c'est-à-dire les sociétés coloniales, comment les administrateurs et les populations colonisées vivent ensemble dans les sociétés coloniales et comment les colonisés ont pu transformer la situation coloniale. Donc à travers différents aspects, mais c'est un des moyens par lequel peut-être ce type de discours va pouvoir passer, puisqu'en étudiant la colonisation, pas depuis la métropole, mais depuis le terrain local, on se rend constamment compte que la situation coloniale est constamment transformée par des dialogues avec les populations locales.
Voilà. Oui, je voudrais revenir sur cette affaire de ces frontières de la Gambie et du Sénégal, parce que ça, c'est un bon exemple d'établissement de frontières un peu plus compliqué, que me semble-t-il, que l'épure que Camille a décrite de type européen, c'est-à-dire frontières d'abord négociation, ensuite mission de délimitation, et puis ensuite démarcation. Et je trouve que c'est très intéressant qu'elle ait dit que justement les frontières intra-impériales, ou même les frontières intra-impériales qui, elles, ne posaient pas de problème diplomatique, n'ont pas fait l'objet de ce type de séquence. Et là, je pense que, comme dans l'exemple de la Gambie, par exemple, quand il n'y a pas ce type de séquence, eh bien, on a affaire à peut-être quelque chose qu'on a sous-estimé dans notre travail, c'est des catégories prédonnées, des conceptions qui n'ont rien à voir avec l'Afrique, qui sont des notions qui ont été élaborées au XVIIIe. Par exemple, je pense à l'opposition nomade-sédentaire, l'opposition de genre de vie qui était la base de l'économie politique du XVIIIe. Ça ne colle pas du tout en Afrique. Et comme l'a dit Pierre dans l'exemple de la frontière Mali-Mauritanie, effectivement, on a essayé de rassembler les nomades d'un côté et les sédentaires de l'autre, ce qui est une absurdité. Et donc, je crois qu'on a un peu sous-estimé dans notre travail l'importance de ces catégories, de ces conceptions prédonnées, parce qu'en fait, ces questions de frontières, enfin, on n'a pas fait assez d'histoire des sciences et un peu trop de l'histoire politique. Voilà, c'était plutôt un commentaire qu'un...
Voilà, ça, c'est typique de nos discussions dans l'équipe, discussions scientifiques entre nous.
Par rapport à ce que vous avez dit, la naissance finalement de conscience nationale, etc., est-ce que ça n'expliquerait pas qu'il y ait un progrès dans la notion d'état de droit aussi dans ces pays, donc un espoir aussi qu'il y ait plus de démocratie, etc., enfin, y compris d'ailleurs au Mali, par exemple, vu les réactions qu'il y a par rapport au coup d'État, etc. Donc, est-ce qu'il y a une évolution vers... Ben, finalement, évidemment, le problème, c'est que ça fait un peu occidental, mais enfin, l'état de droit, la démocratie, et donc la fin des guerres civiles, la possibilité d'un développement économique, etc. Enfin, là, je suis un peu optimiste, mais et à la fois un petit peu occidentaliste, parce que, bon, c'est notre modèle, mais enfin, je crois qu'il y a quand même pas mal de pays d'Afrique maintenant qui évoluent dans le sens d'un état de droit, quand même, enfin, de ce qu'on appelle un état de droit et une démocratie.
Je crois qu'en fait le problème de la démocratie et le problème des rébellions, etc., internes, finalement on se rend compte là avec ce qui se passe au Mali n'est pas si lié que ça. C'est-à-dire que le Mali est quand même un état de droit, même s'il y a des accros parfois, mais enfin c'est quand même vraiment quand même une démocratie depuis 1991, donc depuis plus de 20 ans. Et on a vu les réactions effectivement qu'il y a eu là au putsch qui s'est fait donc le 22 mars, où tous les partis et toute la communauté africaine autour, etc., a refusé. Et puis on voit que bon, ce putsch ne marche pas. J'en juge aussi parce que c'est ce qui s'est passé au Niger, où donc le président Mamadou Tandja a fait un coup d'État constitutionnel, et donc le Conseil constitutionnel l'a condamné. Donc il a dissous le Conseil constitutionnel, l'Assemblée l'a condamné, il a dissous l'Assemblée, puis après le peuple l'a condamné, mais il n'a pas pu dissoudre le peuple, et donc ben de fait c'est lui qui est tombé finalement. Donc pour moi c'est très significatif d'une grosse imprégnation profonde, de plus en plus profonde, de l'état de fait démocratique dans les pays, en tout cas qu'on fréquente, peut-être pas tous, mais dans pas mal de pays quand même, et de l'idée que cet état de droit doit être quelque chose d'acquis maintenant. On a eu des expressions récemment, les putschs, c'est terminé.
C'est au fini. Niger, ouais. C'était un discours très clair. Hein, les gens disaient, on va pas revenir 10 ans en arrière, hein, le parti unique, tout ça c'est fini pour nous. Les gens disaient, Tandja peut faire tout ce qu'il voudra, mais au final, il restera pas. Et ça s'est révélé vrai, hein, les gens ont fini par le faire tomber. Et ils tenaient vraiment à cette idée de la démocratie. On voyait des vraies discussions à la télévision, dans la presse, autour de cette question de la démocratie. Qu'est-ce que ça signifiait, la démocratie? Comment il avait galvaudé cette démocratie en trafiquant le vote et par un coup d'État constitutionnel? Donc on voyait pour la première fois une vraie discussion autour de voilà, qu'est-ce que c'est que d'être une démocratie aujourd'hui en Afrique, et qu'est-ce qu'on veut comme avenir pour notre pays. Et ce qu'ont dit les Nigériens, c'est qu'ils voulaient cette démocratie. Après, moi, je suis historienne et je ne fais pas de plan sur l'avenir. Et deuxième chose, je ne suis pas d'accord avec le constat de base qui serait qu'en Afrique, la situation de l'État serait plus grave qu'ailleurs, de manière globale et à toutes les époques, que l'Afrique serait arriérée et devrait aller le sens dans un développement et d'un progrès qui serait celui de l'Europe et d'un mouvement qui serait unique vers un idéal démocratique européen. Je pense que les choses sont beaucoup plus complexes. On a tendance à juger ces pays à partir de notre propre histoire et à pas se dire que ces pays sont en train de se construire pour certains d'une manière violente, mais pas du tout pour tous, et que les choses évoluent constamment et qu'on pose constamment un regard sur l'Afrique qui est un regard condescendant et qui pose un vrai problème et qui est très souvent lié à des discours qui ont été construits par la colonisation, notamment même le concept de développement et l'idée de développement et de progrès par le développement est aussi une idée qui a été construite dans les années 40 dans un contexte colonial.
J'ajoute qu'il y a en Afrique, depuis toujours et à l'heure actuelle aussi, une très grande inventivité qui, par exemple, puisqu'on parle de d'État, de frontières, etc., il y a en Afrique des pouvoirs qui sont différents, des pouvoirs qui sont d'origine européenne, étatique, etc., puis des pouvoirs qui sont légitimés par leur ancienneté, beaucoup de gens appellent des pouvoirs traditionnels, même si j'aime pas du tout ce terme. Eh bien, on voit bien que dans beaucoup de pays africains, il y a toute une réflexion qui se fait justement pour arriver à trouver une place à ces pouvoirs anciens dans l'État, alors c'est peut-être sous forme de députés, puis alors il y a aussi une inventivité incroyable politique de la part de ces chefferies qui arrivent toujours à retomber sur leurs pieds et à rentrer d'une façon ou d'une autre dans l'État. Il y a des notions de terroir qui sont mises en place aussi. Bon, bref, il est probable que, mais encore une fois, moi aussi, comme Camille, je suis historien, donc on regarde plutôt par le passé, puis on n'ose pas trop faire de prospection dans le futur, mais il est très probable que l'État africain finira par s'africaniser justement et ressembler de moins en moins aux legs immédiats de ceux de la colonisation pour devenir un État beaucoup plus proche des réalités qui posent peut-être encore un peu problème maintenant. Mais j'ai confiance tout à fait dans l'Afrique pour inventer ses propres systèmes.
Oui, on vous entend.
D'accord, j'ai une question sur trois pays d'Afrique de l'Ouest qui concernent la Guinée, et le Libéria et la Côte d'Ivoire. Ce qui concerne le mont Nimba qui se trouve, la montagne qui se trouve entre les trois pays à la frontière, dont les trois pays partagent leurs ressources. Et comment s'est fait que ces trois pays et ils partagent les mêmes ressources, et est-ce que ça a été fait par le consensus des autochtones ou ou c'était la volonté des pays colonisateurs?
Alors déjà, il faut, puisque vous parlez de trois pays, vous parlez de la Guinée, oui. Vous parlez de la Côte d'Ivoire et du Libéria.
Bon. Oui.
La Guinée et la Côte d'Ivoire sont des pays qui ont été colonisés par la France,
oui.
Mais le Libéria n'a jamais été colonisé, en fait. Hein. C'est un pays qui, il faut être un peu prudent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un pays qui a été composé par des bonnes œuvres qui ont ramené d'anciens esclaves libérés, d'où le nom de Libéria, d'ailleurs, hein. Donc dans cet espace qui n'était pas encore qui n'avait l'air de ne pas être encore couvert par un état, etc. Bon. En pratique, il y avait aussi des gens qui existaient sur place, des guerriers, des crous, etc. Bon. Et en réalité, on a abouti à une espèce de colonisation indirecte américaine par l'intermédiaire de ces retours d'esclaves ou de retours d'anciens esclaves qui avaient été très largement américanisés. Hein. Ce qui fait que d'ailleurs l'Amérique a pu ainsi installer un certain nombre d'industries comme Goodyear, etc. Bon, donc c'était une forme de colonisation indirecte, mais bon, c'est quand même pas un État colonisé. Et donc on est dans un cas très particulier où là il a des frontières qui sont africaines. Proprement dite, et qui jouxte avec des frontières de pays colonisés. Bon. Donc le problème est un peu particulier. Bon, je dois dire que moi, j'ai pas du tout étudié le mont Nimba, même si je me suis baladé. je vais avoir un peu de mal à répondre à la constitution.
Je connais pas non plus le mont Nimba, donc j'ai pas de réponse sur cette question. Et il me semble pas qu'il y a d'études qui aient été faites sur cette question. Peut-être je me trompe, hein, ou alors voilà, qui sont pas arrivées jusqu'à nous. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le cas de parcs patrimoniaux créé du temps de la colonisation pour gérer des espaces considérés comme devant être partagés par différents espaces, ça a été fait en général dans les années 1920 ça se trouve notamment pour le parc du W qui est partagé entre le Niger, le Burkina Faso et le Bénin, qui est aussi considéré comme une zone tellement riche qu'il faut qu'elle soit partagée dans sa gestion par les trois pays. On retrouve aussi des cas en Afrique de l'Est avec le Rwenzori Park, les monts Rwenzori, je crois, je ne crois pas me tromper. Mais donc cette question de définition de patrimoine et de zones considérées comme ne pouvant pas être partagées entre différents pays parce qu'elles sont trop riches et donc devant être partagées dans leur gestion par plusieurs pays, c'est des choses qui ont été faites au moment de la colonisation. Alors en général, l'objectif n'était pas de satisfaire les populations, puisque en général, les populations de ces parcs ont été au contraire assez malmenées, mais l'objectif était vraiment patrimonial, c'est-à-dire qu'on considérait qu'il y avait une faune et une flore très spécifiques, des richesses, et donc qu'il fallait les partager. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, hein, mais...
Pas tout à fait, mais si vous voulez rentrer dans notre équipe pour parler, travailler là-dessus.
Oui, vous nous avez dit qu'un certain nombre de pays maintenant ont intégré ces frontières et les revendiquent. Donc ma question serait, est-ce que selon vous, la position de frontière renforce le sentiment d'appartenance d'un peuple ?
Vous voulez dire, est-ce que les frontières créent un sentiment national ? Bon, en fait, je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'à l'indépendance, la plupart des dirigeants qui ont pris en main les pays qui venaient de s'émanciper se sont sentis la mission de créer ce sentiment national, ce sentiment d'appartenance, etc. De fait, ils l'ont fait dans les frontières qui leur avaient été léguées et que l'Organisation de l'Union africaine et la Conférence des présidents plus tard, un peu plus tard, pas beaucoup longtemps après, avaient décidé de rendre intangible. Bon. Alors, effectivement, je pense qu'il y a un lien, de toute façon. Hein. On essaye d'avancer vers une unité nationale. On le fait à l'intérieur de frontières qui existent. Maintenant, il faut bien se rendre compte aussi d'une chose, c'est que ces frontières qui existent actuellement sont l'instantané de l'état des frontières coloniales au moment de la décolonisation. Bon, elles auraient pu être différentes. Hein. Elles auraient pu être différentes, tout aussi logiques dans leur segment, si ça avait été d'autres choses. Oui, on a une carte.
Pour vous donner une idée, en fait, on dit que les frontières ont été tracé avant les années 1910, mais quand on étudie un pays, et là je l'ai fait uniquement à l'échelle des frontières de l'État. Si on fait à l'intérieur des frontières de région, ça bouge tout le temps. Mais en fait, les frontières n'ont jamais cessé de bouger pendant la colonisation. Et c'est très important de comprendre que finalement, en 60, on déclare les frontières, enfin en 64, intangibles, mais c'est les frontières telles qu'elles étaient à ce moment-là. Mais la colonisation, elle, n'avait pas arrêté de modifier les frontières pour essayer d'avoir une bonne configuration. Donc elles auraient effectivement pu être autrement.
Et ça aurait pu même être beaucoup plus... Ça aurait pu aller encore beaucoup plus loin, parce que par exemple, un pays comme le Burkina Faso actuel, au fur et à mesure des réformes et des transformations territoriales à l'intérieur de l'Empire français, a disparu, a été recomposé. Mais c'est intéressant parce que cette haute volta de l'époque coloniale, quand elle a disparu, a fait l'objet d'une lettre envoyée par des intellectuels voltaïques qui demandaient au gouvernement français de ne pas casser ce pays qui existait déjà, enfin de casser cet ensemble. En tout cas, il ne parlait peut-être pas de pays, je ne me rappelle plus quel était le terme utilisé. Mais on peut voir que dans les années 30, il y avait déjà l'idée qu'on appartenait à un ensemble et que donc commençait à prendre corps finalement un sentiment d'appartenance à quelque chose. Bon. Et évidemment, l'indépendance avec, en créant une histoire propre donc, à ces différents espaces a pu renforcer ces choses-là. Donc le lien est évident. Mais je ne crois pas que ce soit parce que... enfin, je ne sais pas comment vous dire. Qu'il y ait une enveloppe, oui, ça crée forcément quelque chose, mais cette enveloppe aurait pu être différente et ce n'est pas en soi une obligation... à mon sens, qui permet de déterminer le sentiment national par rapport à cela.
Ouais. Je reprends la parole concernant la fin de l'exposé de Pierre Bollet, concernant le fait que la séparation du Sud-Soudan ou les revendications d'autonomie de l'Azawad ne remettaient pas en cause les frontières. Mais là, il me semble qu'on a une question extrêmement grave que la colonisation avait essayé de résoudre par la gestion administrative, à savoir la capture des, enfin, l'esclavage et la capture des esclaves, puisque aussi bien au Sud-Soudan, l'administration anglaise a empêché les commerçants arabes entre guillemets du Nil de descendre au-dessous d'une certaine zone, et c'est comme par hasard, c'est à peu près cette zone qui est devenue indépendante. Et même chose pour le Niger, pour le Mali, l'administration française a tout fait pour séparer les Touaregs du fleuve, comme l'a montré Charles Grémond dans des travaux récents, dans sa thèse. Et il me semble que cette espèce de politique qui n'a pas dit son mot, qui n'a pas été brandi, etc., et qui a été négligé après les indépendances, eh bien, ça provoque un retour de bâton terrifiant, parce qu'aussi bien on se demande si vraiment ce Sud-Soudan est viable, et de même, Pierre, tu as bien montré que les rébellions Touareg n'avaient pas pour objectif de créer un État autonome, sauf maintenant, mais de renégocier la part de gâteau auquel ils avaient droit à l'intérieur de ces États. Mais donc là, il y a une question sous-jacente, qui d'ailleurs qu'on va retrouver plus à l'ouest avec l'affrontement de la Mauritanie et le Sénégal, mais question qui n'est pas résolue et qui n'est pas résolue dans le cadre de la bonne gouvernance démocratique des États. Parce que c'est ce que Gregor Eman disait, ce que toute une série de chercheurs qui travaillent sur le Mali d'ailleurs disent, ces pays du Sahel, ces pays de cette bande sahélo-saharienne, etc., sont autant post-slavery que post-colonial. Et ça, je pense que c'est une dimension qu'on est en train de découvrir.
Je ne répondrai pas, hein, parce que je suis d'accord avec toi.
Alors, je profite de ce temps, peut-être de réflexion pour d'autres questions, pour vous rappeler que vous retrouverez toutes les informations relatives à cette conférence sur notre site, avec des bibliographies, notamment une bibliographie complémentaire de Camille Lefebvre et Pierre Bollet, et aussi l'enregistrement de cette conférence. Est-ce qu'il y a encore des questions concernant ce sujet ? Sinon, je... Ah, oui. Et vous retrouverez aussi, pardon, vous retrouverez aussi les ouvrages de Pierre Boilet à l'extérieur en vente.
Non, c'est pas vraiment une question ce que je voulais dire, mais je voulais faire une comparaison avec les départements de l'Île-de-France qui ont été créés un petit peu après les indépendances africaines, et où le sentiment d'appartenance à ces départements s'est aussi développé, même si le découpage était... je ne sais pas comment il a été fait, si on a été questionné les populations ou pas, mais...
Il a dû y avoir un petit souci électoral, je pense, mais bon...
On peut combiner les deux.
Voilà, et juste l'autre point que je voulais ajouter par rapport à la discussion sur le Mali. Bon, ce qui est quand même relevé à l'heure actuelle plusieurs fois, c'est que dans le nord du Mali, enfin notamment dans les villes du sud du nord, c'est-à-dire à Gao et Tombouctou, la population n'est pas du tout majoritairement Touareg. C'est aussi une des raisons qui fait que les Maliens en général... ne souhaite pas que le pays soit séparé. C'est pas seulement le... C'est bien sûr le fait d'avoir intégré cet État, mais aussi le fait que, pour une partie, ce sont les mêmes populations qui se trouvent dans la partie revendiquée par les Touaregs.
En fait, au sud de ce que le Mouvement national de libération de l'Azawad appelle Azawad, on est dans des populations qui ne sont pas les mêmes que beaucoup plus au sud, puisque ça n'arrête pas de changer au Mali, il y a plein de populations différentes. Mais c'est vrai qu'ils se rapprochent plus culturellement des populations du sud jusqu'à, disons, au-delà de Mopti, etc. Bon, en revanche, sur le fleuve même, du côté de Gao, il y a des populations qui sont plus apparentés aussi au sud parce que son rail, mais du côté de Tombouctou, c'est des populations qui sont plus apparentées à la Mauritanie ou même à la limite à l'Afrique du Nord, puisqu'ils se disent eux-mêmes arabes, même si on pense bien qu'ils sont d'origine arabo-berbère, voire que berbère. Bon. Mais bon, ça nécessiterait en fait une séance en soi, cette situation du Mali. Et d'ailleurs, vous voyez qu'on en parle quand même beaucoup et que ça pose de vrais problèmes actuellement, parce que cette situation de marginalité, comme l'a rappelé Jean Schmitz, a été préparée en fait dès l'époque coloniale, et des administrateurs coloniaux d'ailleurs sont partis dans les années 60 en disant on laisse, je cite textuellement, des bombes à retardement, et bon, on les voit exploser actuellement. Bon, pour plusieurs raisons, hein. D'abord, la première raison, c'est que le lien n'a pas été fait entre les nords et les suds de ces pays. On n'a pas créé suffisamment d'infrastructures dans les nords non plus. On n'a pas ensuite créé de routes qui reliaient facilement tout ça. Et puis, on a fait des sorts différents, en réalité, donc, à ces nords et à ces suds. Dans le cas du Mali, c'est un pays qui m'intéresse pas mal. Les premières écoles au sud l'ont été dans les années 1893-94, etc. C'est les écoles de fils de chef ou écoles d'otages, comme on disait à l'époque. Et la toute première école, au nord du fleuve Niger, ne l'a été qu'en 47, et ça n'a concerné en fait qu'une centaine de gamins jusqu'à 1960. Bon. Donc, de fait, le sort qui a été fait dans ces régions, en plus, les gens n'étaient pas intégrés dans l'armée, les gens ne partaient pas... Bon, alors, c'était peut-être mieux pour eux, hein, certainement. Mais en pratique, c'est des gens qui n'ont pas du tout, participé aux luttes de l'indépendance, bon, qui ont continué à être marginalisés par la situation de marginalisation qu'on leur avait fait déjà auparavant. Et on voit bien ce que ça donne actuellement.
Est-ce qu'il y a de fait, disons, un partage de l'Afrique entre islam et christianisme ? Est-ce qu'il y a des conséquences, du point de vue des systèmes de pouvoir, des modèles de société, etc., qui correspondraient à ces deux religions ?
Bon, là, je crois qu'on va répondre chacun de son côté, mais enfin, je pense qu'on peut être un peu d'accord. Non, je ne crois pas. Regardez, par exemple, justement, puisqu'on parle du Mali, tout le monde, disons à 95%, les gens sont musulmans. Il y a un peu de chrétiens et encore quelques groupes de gens qui sont animistes. Bon, ça n'empêche pas que on vient de parler des grandes différences culturelles qui peuvent exister entre le Nord et le Sud, et puis ça n'empêche pas aussi que des courants plus rigoristes comme le salafisme commencent à arriver aussi d'Arabie Saoudite, etc. Bon, et que bon, petit à petit, ça peut créer aussi des dissensions. En Côte d'Ivoire, par exemple, effectivement, il y a un Nord qui est musulman et un Sud qui est plutôt chrétien. Bon, en pratique, quand on regarde vraiment les choses, c'est beaucoup plus sur des bases économiques et beaucoup plus sur des accès aux ressources de l'État, etc., que les choses se sont faites, que plus que sur ces divisions-là, qui, pour le moment, à part peut-être dans le Nord-Nigéria, mais sur la base de groupes extrêmement rigides et extrémistes, enfin, à mon sens, ça n'a pas vraiment opposé les gens jusqu'à présent.
Moi, ça me paraît symptomatique d'un des problèmes de nos regards sur l'Afrique, encore une fois, c'est qu'on a tendance à poser des questions qui sont trop larges. On ne poserait jamais une question aussi restrictive pour analyser l'ensemble du continent européen ou l'ensemble de l'Asie. On ne dirait pas que toutes les questions européennes peuvent être analysées à partir du fait que l'opposition entre protestants et catholiques est toujours trop forte. On a tendance toujours à vouloir expliquer les choses de manière beaucoup trop simple quand on parle du continent africain. Et moi, j'aurais tendance à dire que cette question-là, on peut la poser à des niveaux régionaux, c'est-à-dire qu'on peut la poser notamment pour le Nigeria ou pour le Soudan, où là, on pourra avoir des réponses qui seront contextualisées. Mais la poser à l'échelle de l'ensemble du continent sur toutes les périodes, ça me paraît problématique en soi. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas poser des questions qui soient trop générales et auxquelles on ne peut pas répondre à l'échelle d'un continent.
Juste une petite anecdote pour finir sur cette question. Il y a 2 ans, je crois, il y avait un colloque qui était organisé à Bamako sur la laïcité et l'islam. Bon, c'était assez chaud comme sujet. Et quelqu'un a pris la parole à un moment donné parce qu'on évoquait justement les proportions respectives des religions au Mali, etc. Ah, il a dit donc 90% ou 95% sont musulmans, 4 ou 5% sont chrétiens, le reste c'est animiste. En fait, on est tous religieux, c'est tout.
Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, pardon, excusez-moi. Merci beaucoup pour cette intervention passionnante sur le sujet des frontières en Afrique. Et voilà, je vous invite à nous rejoindre dans un mois pour les frontières maritimes en Chine, avec Sébastien Collin et Jean-Marc Sorel de l'IRIDIES et de l'UALCO. Et sinon, autour de la littérature contemporaine française, ce jeudi, autour d'une soirée qui s'intitule « Publier son premier roman », un autre sujet. Merci beaucoup, bonsoir.
Merci à vous.